La France bouge, c'est jusqu'à 14h et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir la solution du jour avec Dora Nana.
Oui, aujourd'hui, Dora, on va parler d'une solution qui permet de verser de l'argent à une association lorsqu'on commande son VTC, c'est-à-dire une voiture de transport avec chauffeur, son taxi.
Et ça s'appelle ROX, cette solution. C'est un nouveau service internet. En fait, ça permet, comme vous l'avez dit, de réserver son taxi de manière assez simple. Alors, via un chatbox, un robot conversationnel, pour ceux qui ne savent pas, et sans passer par une application. Alors, tout ça se fait dans un esprit beaucoup plus humain, plus éthique, car le chauffeur est d'une part mieux rémunéré et en prime, une partie de votre course est reversée à une cause qui vous est chère via l'association de votre choix. Bonjour Alexandre Cabanis.
Enchanté.
Bonjour. Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le PDG de ROX. Alors, expliquez-nous, moi je veux savoir comment ça fonctionne. Je parlais de chatbox, donc ce fameux robot agent conversationnel. Donc ça va être un robot avec qui je parle, il n'y a pas d'application. Alors comment s'effectue la réservation déjà? Je suis intéressé, je fais comment?
Pour rassurer tout le monde sur la simplicité du mécanisme, il suffit de se rendre sur le site internet rox.paris. Et là, vous serez vite guidé vers l'interface pour échanger et... peu de temps de plus que via une application, commander votre chauffeur.
Donc à l'ancienne. Donc pourquoi pas une application? Parce que tout le monde se met à l'application, vous avez choisi d'être hors application.
Parce qu'on a voulu se déployer le plus vite possible sur le marché.
D'accord. Alors la vraie nouveauté, je le disais, c'est le côté éthique en fait que vous avez développé, voilà. Puisque les chauffeurs sont d'une part mieux rémunérés et une partie de la course est réservée donc à des associations, c'est bien ça?
C'est ça.
Ils sont rémunérés combien les chauffeurs?
Avec nous, on ne prend que 10% de commission. Quand le leader du marché, que je ne citerai pas, prend 25, et le numéro 2, 22.
D'accord. Donc, et moi, je choisis l'association. Comment ça se passe, en fait? C'est du microfinancement? C'est comment ça marche?
Alors, très bonne question. À la fin de votre course, on vous propose de choisir parmi une liste de 8 associations que l'on essaye de manière la plus neutre possible de couvrir, on va dire, tout le spectre des affinités. Et cette partie-là, ce micro-don, sera pris dans le tarif de la course, si vous voulez. Ce n'est pas comme les arrondis que vous pouvez avoir aujourd'hui au fast-food ou
dans les enseignes,
au supermarché du coin, qui est pris de votre poche. Là, c'est une
prélevé
fois qu'on vous a
sur
dit,
la course. Voilà, alors, je fais une course qui va me coûter 17 euros, Paris Intramuros. Sur les 17 euros, vous allez reverser combien à l'association?
On va reverser 3% à l'association.
D'accord.
C'est vrai que par course, ça ne paraît pas énorme. D'où le micro-don,
mais
plus
ce sont
on fera de course.
Les petits ruisseaux qui font exactement. Les grandes rivières.
Et aujourd'hui, vous êtes moins cher sur le marché, justement. Ce système, il vous permet d'être au prix, moins cher,
on
légèrement
au prix. Aujourd'hui,
d'accord.
On est au prix du marché.
D'accord.
Dans ce prix, vous faites une bonne action, une bonne action à double titre, donc pour les chauffeurs qui sont non seulement mieux rémunérés, mais on va tout faire pour qu'ils aient une tranquillité d'esprit, un confort d'esprit en sachant qu'ils ne pourront pas avoir de courses en dessous d'un certain montant, que s'ils peuvent avoir des courses récurrentes, ils en aient, etc. Donc, on va tout faire pour le chauffeur, et financièrement, et en termes de tranquillité d'esprit. On pense au futur. Et donc, c'est en pensant au futur qu'on se dit que même le secteur du transport doit être le plus équitable et le plus éthique possible, via les associations.
Que dit notre coach, Frédéric Mazella?
Alors, je me demande dans quelle mesure c'est quelque chose de déterminant pour les clients, au final. Sachant qu'en plus, il y a certaines applis qui proposent justement des arrondis, comme vous en parliez tout à l'heure, des micro-dons. Je crois que sur Captain, c'est Ride for Good. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui permet d'arrondir la course. Donc, comment vous allez vous différencier, sachant que c'est quand même un jeu où il faut avoir une grande base installée et qu'en plus, ces acteurs-là qui sont déjà bien installés, bien qu'ils prennent des marges plus élevées, ne sont pas toujours dans une zone de rentabilité souhaitable. Donc comment est-ce que vous, en prenant plus de deux fois moins, vous allez être à la fois rentable et généreux et attirer suffisamment de clients? Généreux, je parle vis-à-vis des associations, et attirer suffisamment de monde.
Merci Alexandre Cabanis.
Oui, merci de me tendre cette perche. Je disais qu'on pensait au futur, donc le futur, certes, de notre société via les chauffeurs et via les associations, mais on pense aussi au futur de nos clients, c'est-à-dire leurs enfants. Le premier service spécifique que l'on lance aujourd'hui, d'ailleurs, je peux le dire, c'est les sièges enfants pour la garantie que ses enfants soient en sécurité pour des trajets à l'aéroport, par exemple. Et ce service additionnel, on le vend 5 euros par siège, ce qui nous permet d'avoir, sur les extras, une rentabilité différente.
Dora,
combien vous avez de flotte de chauffeurs, justement, pour rebondir sur ce que disait Frédéric Mazella ? Parce que vous prenez 10% de la commission donc, au total de la course. Et combien y a de chauffeurs aujourd'hui dans votre flotte ?
Une centaine.
D'accord. Et vos rapports avec ces chauffeurs, ce sont lesquels, en fait ? Vous n'avez pas de lien à part cette commission. Ce n'est pas vous qui les recrutez.
On n'a pas de lien salarial, d'accord. Comme vous avez pu le suivre sur les débats autour d'Uber. Donc, on n'est pas un rapport d'employeur-employé.
Bien sûr.
Mais on est des intermédiaires qui... Voilà, who care, si je pouvais le dire en anglais, qui font attention à eux et voilà, qui se disent qu'il ne peut pas y avoir d'acteurs durables et de secteurs pérennes si on ne les écoute pas.
Et vous les castez, justement ? La question que j'avais, c'était sur le recrutement. Vous faites attention parce que, justement, il faut qu'eux aussi soient dans une démarche éthique.
C'est l'avantage d'être petit, si je peux dire. C'est qu'on a plus de temps à leur consacrer, à leur faire passer un casting, que ceux qui ont déjà atteint une taille colossale.
Et est-ce que vous avez une relation exclusive avec eux ? C'est-à-dire qu'eux peuvent travailler pour d'autres plateformes ou ils travaillent uniquement pour vous ?
C'est le jeu du marché et tel que la loi le définit aujourd'hui, c'est que tout chauffeur peut travailler avec tout le monde. Mais si un acteur ne leur reprend que 10% quand son voisin en prend 22%, on se dit qu'ils vont faire de plus en plus de courses avec celui qui fait le plus attention à eux.
On vous invite donc à découvrir ROX. C'est la nouvelle solution Made in France pour voyager tout en donnant du sens à vos trajets, hein, puisque vous pouvez, sur votre course, reverser une partie aux associations. C'est merci ça. Alexandre Cabanis d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est midi 58.
Europe 1.
Restez avec nous, vous êtes nombreux pendant ces vacances de la Toussaint à vous rendre sur la tombe de vos défunts. Mais aujourd'hui, des Français essaient de faire évoluer ce secteur pour le moderniser. On en parle ensemble, 3921 Twitter, c'est la France qui bouge. A tout de suite.
Europe 1, midi 14h, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Ici, vous le savez, on s'intéresse à l'actualité sous un autre jour. Et si vous êtes partis en vacances, certains d'entre vous sont peut-être en ce moment en train d'aller dans leur village d'origine pour aller se recueillir sur la tombe de leurs proches. C'est une tradition pour les vacances de la Toussaint et le jour des morts. Mais vous allez voir que les choses ont beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années. Bonjour Anne-Sophie Tricard. Merci d'être avec nous. Vous dirigez l'entreprise Dans nos cœurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un réseau où l'on peut tout simplement venir partager, déposer des messages, des photos, échanger sur la personne disparue. Je crois que c'est au décès de votre père, vous aviez 21 ans à l'époque, que vous avez eu envie de vous intéresser aux services qui existaient.
Tout à fait, oui.
Comment ça s'est passé dans votre tête ?
Comme vous l'avez dit, donc j'ai perdu mon père. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte de plusieurs constats. Notamment, on a déjà l'émotionnel qui arrive, qui est difficile à gérer. Et puis après, on a plus les questions pratiques, on va dire l'organisation des obsèques. On va avoir l'accueil de la famille. Comment on prévient également les proches du défunt. On va avoir des contraintes de temps, de distance à gérer. Et puis après, il y a le après. Le après obsèque, c'est-à-dire... la solitude qui peut arriver et puis comment on s'exprime parce qu'on peut avoir connu une même personne. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai perdu mon père, mais par exemple, pour ma maman, c'était son mari. Et on était dans une même famille, mais... Avec un lien différent. Et je me suis dit, peut-être qu'avec Internet, on pourrait rompre ou aller au-delà en fait, de certaines frontières qu'on s'impose. Et c'est vrai que la solution de préserver le souvenir ou de délier les langues un peu sur Internet, c'est imposé un peu comme une évidence.
Donc vous avez créé Paradis Blanc, qui était une start-up qui n'a pas fonctionné, en tout cas pas comme vous le souhaitiez. Du coup, vous vous êtes tourné vers Dans nos cœurs qui existait déjà et vous êtes arrivé avec finalement votre propre conception. On est là en 2017, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Donc Paradis Blanc a fonctionné dans une certaine mesure parce que la volonté, c'était déjà de créer un service. Et puis, quand je me suis retrouvée du coup devant Dans nos cœurs, donc se retrouver dans nos cœurs, c'est un grand mot. Il faut savoir que derrière, il y a des humains, et notamment les personnes qui nous soutiennent, donc les groupes de presse. Et ils ont apprécié en fait cette vision humaine que j'ai pu leur proposer par rapport à ce secteur-là, entre guillemets. Et depuis 2017, on a vraiment retravaillé notre ADN pour non seulement délivrer une information, donc l'information liée aux obsèques,
c'est-à-dire la vie de décès, voilà, etc.
La vie de décès.
Mais on ajoute des
et
choses.
On ajoute à
des
ça
photos.
Donc tout un levier d'expression. On va pouvoir s'exprimer sur le défunt, sur les souvenirs qu'on a eus avec cette personne, partager des messages de condoléances, des messages de remerciement. Et puis, on propose également des services, donc des services aussi bien pour les proches, donc la famille ou les personnes qui souhaitent signifier leur présence et rendre hommage aux défunts, et également des services auprès des professionnels, parce que voilà, on a des partenaires, j'en ai un juste à côté de moi qui s'appelle En Sa Mémoire et avec qui on travaille pour faciliter en fait le travail de deuil, faciliter le message de condoléances qu'on souhaite, l'hommage qu'on souhaite rendre
délivrer
au défunt et à sa famille.
Le rapport à la mort aujourd'hui, Dora, le choix des obsèques, l'évolution, c'est quelque chose qu'on a noté, hein,
oui,
qui est une évidence.
Et ça a beaucoup changé ces dernières années. On est de plus en plus nombreux, par exemple, à souhaiter pour nous-mêmes la crémation plutôt que l'inhumation. Et la crémation, d'ailleurs, représentera bientôt la moitié des obsèques. C'est ce qu'on pense dans les quelques années à venir. Alors, c'est un secteur qui est en forte croissance depuis les années 70. On préfère la crémation. Il y a une forte majorité des gens, c'est un sondage Ipsos qui date d'il y a un an, une forte majorité des gens qui veut une cérémonie souvent davantage personnalisée, laïque ou multireligieuse. Alors, faut savoir à noter quand même que les croyants et pratiquants sont un peu plus de 60% à choisir l'inhumation contre moins de 40% pour la crémation. Voilà, les principaux arguments des partisans de la crémation, alors on le rappelle, a été interdite chez nous pendant un millénaire, sont le souhait de ne pas laisser de traces après notre mort, ne pas prendre de place, 42% quand même, une solution meilleure pour l'environnement, 38%, et nous ne voulons pas que notre corps se dégrade après notre mort pour 30% des gens. Alors rassurant, l'aspect économique n'est cité qu'en quatrième choix. Donc ce n'est pas l'économique qui compte. Et il faut savoir que dans d'autres régions du monde, la crémation est largement dominante, par exemple 90% dans le Grand Londres ou 95% à Copenhague.
Frédéric Mazella, notre coach.
Oui, alors je suis allé voir sur danscnoscoeurs.fr pour voir comment c'était fait. C'est très doux, on va dire, comme
approche.
Comme approche, ouais. Non, c'est vrai, parce que c'est forcément des moments émotionnellement très très intenses. Donc, je pense qu'accompagner ces émotions-là, c'est bien, c'est important. En plus, bon, partout sur votre site, on dit que vous avez une équipe qui est à l'écoute, qui est très attentive. Et donc, je vois aussi qu'en fait, votre rôle, c'est un peu d'être centralisateur de toutes les démarches qu'il y a à faire, et y compris, donc, du coup, vous pouvez renvoyer les personnes vers les différents services. Et donc, vous êtes un peu un endroit central sur lequel on peut tout trouver, en fait. On peut tout prévoir, c'est ça ?
Vous êtes un aiguilleur, une sorte d'aiguilleur ?
Oui.
Au-delà du fait que vous allez pouvoir permettre un endroit sur lequel on peut se souvenir de la personne, vous êtes aussi un endroit pour aiguiller sur toutes les formalités qu'il y a à faire, déclarations via la presse, via trouver aussi où faire la sépulture.
Oui, complètement. En fait, dans nos cœurs s'inscrit dans le prolongement des acteurs principaux de la vie de décès, c'est-à-dire les pompes funèbres et les journaux. C'est-à-dire que les journaux ont toujours eu cette vocation d'informer et de communiquer. Et dans nos cœurs, c'était vraiment le prolongement en fait, de la vie de décès. Demain, qu'est-ce que ça va être ? Et grâce à Internet et aux nouveaux usages, ben, on a pris cette place en fait, de centralisateur de l'information de la vie de décès. Et effectivement, on essaye en fait, de faire connaître au grand public des services qui peuvent les aider. Donc ça peut être aussi bien sur les courriers administratifs que sur la livraison de fleurs. On travaille notamment avec un partenaire, avec 1-2-3 fleurs, qui nous permet qui a une offre spéciale funéraire pour la livraison de fleurs directement sur la sépulture ou directement pour la cérémonie. Donc ça ne se retrouve pas forcément sur tous les sites de fleurs. On travaille avec des partenaires de l'entretien de la sépulture. On essaye de recommander, en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas de média qui fait découvrir au grand public tous les services qu'il y a autour du funéraire. Et grâce à Dans nos cœurs, en tout cas, on aimerait bien pouvoir donner la parole aux acteurs du funéraire.
Combien d'espaces souvenirs est-ce que vous avez aujourd'hui ?
Alors, ça fait 10 ans. Donc, cette année, on fête nos 10 ans et on est à 3 millions d'espaces souvenirs.
Et chaque mois, il y a 1 700 000 personnes qui viennent se connecter, visiter votre site.
Tout à fait. On est à 5 millions de visites par mois et ça est représenté par 1,7 million de visiteurs uniques. Donc, des personnes physiques qui viennent se connecter.
On reste ensemble et on continue à parler de ce marché du funéraire qui a beaucoup changé ces dernières années.
Il est 13h19.
Europe 1.
Vous ne pouvez pas entretenir les sépultures de vos proches car vous vivez trop loin. Il existe des services qui le font pour vous. À tout de suite.
À l'approche de la Toussaint, dans la France bouge, on parle cet après-midi du secteur funéraire qui est en pleine évolution. Vous souhaitez nous envoyer un message, poser vos questions à nos invités, faites-le via Twitter, hashtag Europe 1 ou appelez-nous au 3921 Raphaël.
On a tous déjà eu mauvaise conscience en se disant que nous n'allions pas assez souvent rendre visite à nos disparus pour entretenir les tombes, les fleurir. Eh bien, il existe désormais des services pour le faire à notre place. Bonjour Yann Lepage.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG et cofondateur Dans sa mémoire. Vous êtes basé à Aix-en-Provence et depuis 10 ans maintenant, vous proposez d'entretenir les sépultures. Racontez-moi, comment elle vous est venue, cette idée ?
Avant de vous raconter, je veux vous remercier de donner la parole à l'univers du funéraire. Certes, c'est la Toussaint, mais c'est un sujet un peu tabou en France aujourd'hui. Et il y a pourtant plein de belles solutions qui voient le jour. Donc, merci. On existe depuis 10 ans, effectivement. Notre métier, en fait, c'est le métier du souvenir. D'accord ? Il y a 3 façons de ne pas oublier ses défunts. La première, c'est la pensée. Mmh. On a tous nos défunts dans la tête, dans un coin du cœur.
C'est vrai.
Il y a des solutions digitales, dont Anne-Sophie a parlé juste avant. Et puis, il y a la tombe, la sépulture. On a parlé de crémation, d'inhumation. Quels que soient les modes du pendant obsèque, on va dire, dans l'après, il y a la sépulture. C'est important pour beaucoup de familles de ne pas laisser la sépulture familiale à l'abandon.
Mais vous n'étiez pas du tout dans ce secteur-là au départ. Comment est-ce que vous arrivez dans cette aventure-là ?
Eh bien, bonne transition. Je suis arrivé à ce moment-là de « c'est important pour moi de faire entretenir ma sépulture familiale dans une problématique personnelle ». Et en recherchant, comme c'est assez classique, j'ai envie de dire, recherchant une solution auprès des pompes funèbres, auprès des fleuristes, auprès des marbriers, ça n'existe pas. Aujourd'hui, en tout cas hier, il n'y avait pas de solution en habitant Paris, et en ayant sa grand-mère, son grand-père ou quelque autre membre de sa famille enterré à Nice, d'assurer cette prestation-là. En sa mémoire, depuis 10 ans, propose ce service-là, de manière extrêmement simple et packagée.
Donc il n'y avait pas de concurrent du tout. Vous êtes arrivé, vous avez proposé et l'entretien des pierres tombales et le fleurissement.
Voilà, alors il ne faut jamais dire pas de concurrence, parce qu'il y a toujours une concurrence, si elle n'est pas directe, elle est indirecte. Depuis tout temps, il y a des pompes funèbres qui sont aux portes du cimetière, qui depuis 3 générations ont les familles qui viennent pour acheter un chrysanthème. Ils assuraient un nettoyage et un fleurissement. Mais c'est très marginal et c'est surtout que dans les grandes villes. Il y a quelques fleuristes, pareil, en face du cimetière qui l'assuraient. Mais il n'y avait aucune solution packagée au même prix au fin fond de la Creuse ou au Père-Lachaise, avec un service avec les prix affichés en ligne, ce qui est le cas sur sa mémoire, hein, 29 € pour 4 passages par an. Un service packagé et simple, ça n'existait pas.
Donc aujourd'hui, vous êtes partout en France.
Voilà. Alors, on a fait un choix stratégique dès l'origine qui était très fort pour nous. C'est qu'on intervient uniquement avec nos équipes de salariés.
C'est-à-dire qu'au départ, vous alliez, vous, dans telle région la première semaine, telle région la deuxième semaine, et puis vous recommenciez à la fin du mois.
Alors ça, c'est la belle histoire a posteriori, 10 ans après. C'est qu'il y a plusieurs solutions de monter un business en France. On peut le faire financer ou on peut faire le job soi-même.
C'est ce
choix
que vous avez fait.
Qu'on a fait avec Flavien Jourdain, mon associé. Et effectivement, on a ouvert l'entreprise en région PACA parce que l'entreprise est native d'Aix-en-Provence. Mais rapidement, les demandes étaient très fortes sur la région Île-de-France. On a ouvert la zone et une semaine par mois, je partais avec mon camion plein de plantes sur la capitale, nettoyer, fleurir les sépultures pendant une semaine et ça tous les mois pendant 3 ans.
Aujourd'hui, vous avez l'entretien de 10 000 tombes, c'est ça ?
Voilà. Moins de tombes que ça, mais on fait 10 000 interventions par an.
10 000 interventions par an.
Voilà.
Votre développement, vous le voyez comment ? Vous arrivez à répondre à toutes les demandes aujourd'hui ?
On a 2 grands types de clients. On a les familles qui nous trouvent directement sur Internet, parce qu'elles ont cette problématique. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, on a les grands groupes de pompes funèbres qui, historiquement, ont les demandes, mais n'étaient pas en mesure de répondre avec une solution professionnelle.
Et qui se tournent vers vous.
Exactement, qui s'appuient sur nous désormais.
Et je précise, parce que c'est important, que vous envoyez aussi les vidéos pour bien montrer aux gens que vous êtes allés faire le fleurissement de la tombe. C'est important pour la personne qui vous a demandé ce service d'avoir un retour, finalement.
Effectivement, une prestation, ça comprend trois choses. Le nettoyage complet avec des produits 100% biodégradables, un fleurissement naturel et l'envoi d'un bilan photo avant-après aux familles par mail. Et l'innovation de la Toussaint, c'est qu'on donne pour la première fois, ça c'est national, la possibilité aux familles de prendre une option pour voir en réalité virtuelle leur monument familial propre et fleuri. C'est-à-dire que vous allez pouvoir parcourir les 30 derniers mètres, filmés par nos équipes en caméra VR 180, et tourner la tête à droite, à gauche, en haut, en bas, et vous rendre sur la sépulture comme si vous y alliez vous-même, sans vous déplacer.
Notre coach, Frédéric Mazella.
Alors, je voulais juste savoir, les professionnels avec qui vous travaillez, ce sont des fleuristes, des auto-entrepreneurs, comment vous faites, enfin, vous avez votre réseau?
Non, alors
vous avez des fleurs partout en France,
C'est une bonne question, parce que c'est vraiment la pierre angulaire du modèle dans sa mémoire. Aujourd'hui, toutes les prestations sont exclusivement réalisées par nos équipes de salariés. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 personnes sur tout le territoire, qui ont leurs véhicules, qui sont CDI temps plein, qui travaillent que pour nous. La plupart d'entre eux sont là depuis le début de l'aventure et ne travaillent que pour nous. Donc aucune sous-traitance.
Est-ce que vous assurez la réparation? Parce que des fois, les pierres tombales, elles sont décellées, etc. Vous le faites aussi?
Non, tout ce qui est grosse marbrerie, on ne le fait pas. Ce n'est pas notre métier. Je le dis toujours avec beaucoup de fierté, on est les femmes de ménage des cimetières. On n'est pas des maçons. On ne construit pas les monuments. Il y a des marbriers qui font ça très bien. Il y a des pompes funèbres. Nous, on fait le nettoyage.
Et est-ce que vous avez des clients qui donc vous achètent votre prestation pour mettre des fleurs sur les tombes de leurs proches, qui se demandent, qui ont peut-être un état d'âme à se dire bon, j'aurais pu aller sur la tombe, mais je n'y vais pas. Donc, enfin, quelque part, parce que aller sur une tombe, c'est aussi penser à la personne très fortement, lui rendre hommage. Enfin, envoyer quelqu'un pour mettre les fleurs, c'est quand même pas pareil. On a payé 29 euros en ligne et puis on envoie quelqu'un. Est-ce que vous avez des gens qui se posent ces questions-là et comment vous y répondez?
Alors, c'est aussi une très bonne question. Bravo, coach. en fait, dans l'univers du funéraire des obsèques, il y a trois temps. Il y a l'avant, avec tout ce qui est contrat obsèques. Il y a le pendant, avec la gestion du deuil. Et il y a l'après. D'accord. Quand on habite Paris et que la sépulture est à Nice, on peut mettre toute la bonne volonté qu'on veut, on ne va pas y aller tous les 15 jours, de manière très objective et pragmatique. Mais si c'est très important de ne pas laisser la tombe à l'abandon, il y a en sa mémoire.
On reste ensemble et on continue à parler obsèques aujourd'hui et révolution dans ce monde du funéraire.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et une tendance qui se développe aussi, c'est celle des obsèques pour animaux. Une société s'est spécialisée, c'est Estima. À tout de suite.
Dans la France bouge cet après-midi, on parle du secteur funéraire qui évolue avec de belles solutions pour accompagner les familles avant, pendant et après leur deuil. Vous utilisez ces solutions, vous souhaitez témoigner ou poser des questions à nos invités, écrivez-nous via Twitter à hashtag Europe 1 ou alors appelez-nous au 39 21, c'est 50 centimes la minute.
Raphaël. Beaucoup de personnes seules, beaucoup de familles aussi ont avec elles un animal de compagnie. Or, quand le chien ou le chat qui vous accompagne depuis 10 ans disparaît, c'est aussi un deuil à faire. Bonjour Philippe Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Estima. Vous êtes basé à Villeneuve-d'Ascq, oui. Et vous existez depuis 1995. Au départ, vous étiez vétérinaire. Et c'est pendant vos études, je crois, dans le Nord, que vous avez été sensibilisé à cette question. Donc, vous avez très vite, finalement, voulu proposer une solution aux clients que vous voyez défiler, qui avaient perdu leur animal.
Tout à fait, c'est exactement ça. Il y a 25 ans, 26 ans, les vétérinaires n'étaient pas spécialement à l'aise avec la mort de l'animal de compagnie, et surtout le sort qui était destiné au corps. Et il nous paraissait important de se mobiliser pour constituer ensemble des qualités de service qui étaient au même niveau que les soins qu'on avait prodigués de leur vivant. Et il nous a paraissé important de mettre en place une filière pour proposer aux propriétaires un service digne de ce nom, et avec des garanties associées. Et on s'est mobilisé entre quelques copains vétérinaires et 200 vétérinaires du nord de la France ont monté les services d'incinération.
Donc dès 1993, vous ouvrez une première
En fait,
crémation, c'est alors, ça pour animaux.
200 vétérinaires du Nord se sont mobilisés dès 93 et en 95, le premier crématorium pour animaux de compagnie a été ouvert à Beauvau-en-Cambrésis, voilà, dans le nord de la France.
Donc ça, c'est le premier. Il y en a un second très vite en Rhône-Alpes.
Alors moi, entre-temps, j'ai immigré sur la région Rhône-Alpes. J'ai ouvert le deuxième en 98 et puis c'est comme ça que la compagnie a démarré. Depuis, on s'est développé sur tout le territoire.
Aujourd'hui, vous en avez 14.
Tout à fait.
En France. L'idée, c'est effectivement, et vous l'avez dit, que le niveau de soins soit là aussi après. Ça permet aussi d'éviter un problème qui est celui de l'équarrissage.
Alors, c'est toujours délicat. Merci d'en parler parce que c'est pas souvent que les gens comprennent ça. Oui, effectivement, nous, c'est pour des raisons éthiques que nous avons monté. Il nous paraissait pas normal que les animaux de compagnie qui ont donné tant pendant du vivant. Ils ont accompagné la famille la plupart du temps. Ça ne paraissait pas normal qu'ils finissent en produits, en matière première ou en farine animale. Et donc, nous avons souhaité créer cette filière pour ça.
Aujourd'hui, vous avez changé de nom parce qu'avant, les gens vous connaissaient peut-être sous une autre appellation, c'était Incinéris. Qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi ce changement de nom?
Parce que depuis 25 ans, les choses ont changé. Nous avons bâti cette société initialement pour éviter l'écarissage aux animaux de compagnie. Cette première mission a été remplie avec l'investissement des vétérinaires sur toute la France. On considère qu'aujourd'hui, vu les volumes traités, c'est la première mission qui est faite. Par contre, on voit que la demande évolue. Et il y a 25 ans, les gens voulaient éviter l'écarissage. Aujourd'hui, les gens demandent de vrais services funéraires. Et donc, il nous apparaissait important de marquer cette rupture par un changement de marque. Et aujourd'hui, nous avons une nouvelle marque Estima, qui est destiné au grand public. Il est temps maintenant de faire connaître nos services auprès du grand public.
Oui, parce que vous êtes en train de grossir. Vous étiez une PME. Mmh. C'est en train de devenir une ETI. Il faut quand même le signaler. Hein. Vous avez des projets de développement à l'international et vous avez 450 salariés aujourd'hui.
C'est exact. Vous avez bien renseigné. Oh.
Ce sont toujours des vétérinaires qui sont à la base.
Alors, ce sont toujours les vétérinaires qui sont actionnaires de cette société.
Ça, c'est important.
Oui, on pense que l'ADN, c'est l'ADN, par définition, c'est depuis la naissance jusqu'à la fin de sa vie. Et puis, nous sommes attachés à un certain nombre de valeurs éthiques qui sont propres. Et on défendra toujours cette boîte. Moi, je suis président, est un vétérinaire. Les actionnaires sont des vétérinaires. Et c'est important de montrer qu'on est proche du vivant, qu'on est proche de nos clients et qu'on se soucie d'eux jusqu'à la fin. Donc oui, ça, c'est vraiment important. C'est une entreprise qui est étonnante. C'est une ETI, effectivement, mais avec un ADN fort et des valeurs fortes.
Frédéric Mazella, notre coach.
Est-ce qu'il y a une législation concernant la sépulture des animaux comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit aujourd'hui aux propriétaires d'animaux la manière avec laquelle ils doivent gérer la mort de leur animal de compagnie?
Il y a un grand flou, puisque le code rural était quand même une ambiguïté depuis des années. C'est très récent qu'on ait le droit d'incinérer les animaux de compagnie. On incinère les chevaux que depuis 4 ans en France, et on en fait 1200, c'est un développement récent, pour vous dire qu'il y a ce besoin. Le monopole était, l'État était, par l'écarissage,
était géré par l'État.
Il y avait un monopole d'État, donc c'était compliqué de se heurter à ça. C'était une entorse, un peu les animaux de compagnie, ça s'est passé. Après les chevaux, il a fallu un vrai combat législatif. Et aujourd'hui, l'animal de compagnie, il est considéré par la loi comme un être sensible, récemment. Je suis très conscient de cette évolution. Mais par contre, dès qu'il décède, il est considéré comme un déchet. Et nous militons aujourd'hui activement pour que les cendres des animaux de compagnie, pour moi, on les stocke, nous, dans des cellules dédiées, on souhaiterait pouvoir les épandre en forêt, retour à la nature. Et ça nous est interdit en France par ce statut qui est considéré comme un déchet. Pour moi, c'est une incompréhension. Ça n'a aucune logique.
Justement, puisqu'on est en train de parler d'épandre des cendres, il y a des choses qui se font. Je pense par exemple, Dora, à l'humisation.
Oui, alors il y a
humusation.
Il y a beaucoup de choses. Il y a des choses qui, de plus en plus, les gens ont envie de, justement, le secteur funéraire et des obsèques, il n'échappe pas à la tendance écologique, en fait. Et il y a des gens qui prônent l'humusation, en fait, comme alternative à la crémation et à l'inhumation, dont on parlait. C'est le cas, par exemple, de la Fondation Métamorphose en France, qui milite depuis des années pour sa légalisation. Alors, l'humusation, c'est une méthode funéraire écologique, pour le dire joliment, c'est faire don de notre corps à la terre. C'est la métamorphose naturelle via la biodécomposition des défunts, en quelque sorte. On est transformé en compost humain après sa mort et on retourne comme ça donc à la terre et on fertilise les arbres grâce à nos corps, en fait, devenus humus. Alors, cette pratique, elle est interdite en France, mais elle est permise dans l'État de Washington aux États-Unis depuis peu. Et voilà. Et en France, il y a des gens qui militent pour ça. Et il y a un site, d'ailleurs, www.humusation.org.
Et puisque vous parliez de la tendance écolo, il y a aussi des choses qui se font, comme par exemple, et c'est assez récent aussi, les cercueils en carton.
Oui, il y a aussi les cercueils en carton, parce qu'il faut savoir que chaque année, il y a 90 000 mètres cubes d'arbres qui sont abattus en France pour mettre en bière 550 000 morts. Et il existe des solutions plus écolo que le bois. On peut par exemple choisir un cercueil en carton. Alors c'est sans colle polluante à la crémation, c'est l'avantage. Moins de substances toxiques à la combustion, avec un taux d'oxyde d'azote faible. Donc il n'y a aucune émanation de métaux lourds ou de fluor. On peut même opter depuis une dizaine d'années, pour ceux qui choisissent la crémation, pour des urnes écologiques en bois ou en argile, et même des urnes bio à base d'algues. Voilà, donc c'est un gain inestimable pour la planète, mais aussi visiblement pour le portefeuille.
On reste ensemble et on continue à parler du monde funéraire aujourd'hui sur Europe 1. Il est 13h38.
Europe 1.
Et on vous attend, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Venez témoigner, venez poser aussi vos questions à nos invités. C'est la France qui bouge. A tout de suite sur Europe 1.
Le secteur funéraire est en pleine évolution et vous nous en parlez dans La France bouge cet après-midi, Raphaël Duchemin, avec vos invités.
Anne-Sophie Tricard, directrice de danscoeurs.fr, Yann Lepage, PDG et cofondateur dans sa mémoire, et Philippe Thomas, PDG d'Estima les obsèques pour nos animaux. Notre coach, c'est Frédéric Mazella, fondateur de Blablacar. Avec moi aujourd'hui, Dora Nana. Je me tourne vers vous, Anne-Sophie Tricard, parce que sur votre site danscoeurs.fr, on peut trouver tout un tas de choses. On peut trouver, par exemple, des conseils sur la manière dont on doit accompagner un enfant quand on est dans une période de deuil. On peut aussi trouver tout un tas d'innovations. J'ai vu, par exemple, que vous connaissiez une Française qui a inventé un système pour disperser les cendres à l'intérieur d'un bâton de marche.
Oui, tout à fait. En fait, on est dans une période vraiment où on veut personnaliser son hommage, personnaliser ses obsèques, on veut tout personnaliser. Et les pompes funèbres peuvent proposer certains produits et services aux familles, mais elles essayent de les accompagner au mieux. Mais il y a énormément d'innovations en France qui n'ont pas encore pu être découvertes par le grand public. Et avec Dans nos cœurs, on essaye justement de les faire découvrir en avant. Et notamment ce bâton de randonneur où vous pouvez mettre les cendres dedans. Et puis à chaque fois que vous allez marcher, ça va répandre petit à petit en fait, les cendres sur un parcours qui pouvait être apprécié par exemple du défunt. Je peux en citer des dizaines, des exemples comme ça.
J'ai vu aussi, par exemple, qu'il y a désormais des cercueils où on peut déposer du courrier à l'intérieur.
Voilà, tout à fait. Si vous n'êtes pas en mesure, par exemple, de dire un discours pendant les obsèques ou vous avez des messages à faire passer aux défunts, il existe des cercueils avec une petite encoche comme une boîte aux lettres, en fin de compte, où vous pouvez mettre... un dernier hommage avec le défunt.
Dora, vous en avez trouvé d'autres, hein, des entreprises innovantes dans ce secteur.
Justement, vous parliez de bâtons, donc ça me fait penser à Envol Funéraire, qui est un service de pompes funèbres qui propose de disperser les cendres de vos défunts par drone. En fait, ça se fait dans la baie du Mont-Saint-Michel, notamment. La prestation coûte environ entre 600 et un peu plus de 800 euros. La dernière formule, elle inclut carrément la vidéotransmission, parce qu'on parlait tout à l'heure de vidéotransmission, donc une cérémonie personnalisée et sonorisée. Mais il y a aussi Memo Cloud, pour le dire en anglais, un véritable coffre-fort numérique où on peut rentrer toutes les informations qui concernent son patrimoine, des informations qui peuvent être enregistrées en ligne en toute sécurité. Et surtout, on peut aussi transmettre vers des bénéficiaires désignés en cas de pépin de vie, justement, incapacité au décès. Donc ça, c'est memocloud.fr. Il y a mémoiredevie.com, dont on vient de parler. Et voilà. Donc il existe beaucoup de...
Il existe de plus en plus, effectivement, d'innovations françaises. Frédéric, une question, une remarque peut-être pour nos invités ?
Oui, je trouve que le tout, effectivement, se développe. Et il y a toujours quand même l'appréciation de faire, quelque part, une activité économique sur ce secteur-là. Comment vous le gérez au quotidien et comment vous le gérez avec vos clients? Alors j'imagine que sur vos sites, on ne voit jamais de promos ou des choses comme ça.
Comment on fait rimer, je vais essayer de le dire autrement, ouais, business est mort. Hein, c'est ça,
c'est quand même assez compliqué. Mais voilà, vous n'avez pas de promos, ça ne marche pas ça. Non, ça n'existe pas.
Yann, peut-être?
En fait, la meilleure réponse, c'est les familles qui nous la donnent. En fait, quand vous avez une problématique qui touche à quelque chose de profond chez vous, que vous trouvez la solution... Cette solution, elle arrive en bonne nouvelle. Je vais vous donner une illustration. On fait 200 interventions par semaine, à peu près. Sur les 200 bilans photos qu'on envoie aux familles, on a entre 150 et 180 mails par semaine de retour, de remerciements. Je ne suis pas certain que les garagistes, dès qu'ils ont fait les vidanges, ils reçoivent un mail le lundi matin de remerciements. Il y a une vraie implication des familles. On arrive en bonne nouvelle. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de salariés aujourd'hui qui ne cherchent pas de sens dans leur travail. Nous, justement, ce côté extrêmement impliquant donne tout son sens à notre activité. Alors oui, on fait du chiffre d'affaires, mais on crée des emplois. On a créé 10 emplois en France en 10 ans. On va en recruter encore 2 cette année. Voilà,
et vous répondez à un besoin réel exprimé par les familles. Philippe Thomas, c'est la même chose pour vous? Vous avez ce sentiment aussi avec les familles que vous rencontrez et qui viennent vous dire on a besoin d'un service pour nos animaux de compagnie?
C'est très très touchant. Nous, il y a 25 ans, on n'avait jamais imaginé qu'on recevrait des familles chez nous avec des salons où les gens viendraient assister une dernière fois. Je n'avais jamais imaginé, moi, qui ai fait des études de vétérinaire, qu'on préparerait les corps, qu'on leur fermerait les yeux, qu'on les toiletterait. Et par contre, je suis assez apaisé par rapport à nos notions de business, puisque nous, on se contente d'accompagner les gens et en fait, on réagit à la demande. Par contre, la difficulté, c'est pour toujours promouvoir d'autres services. La difficulté, c'est de savoir où la décence, où est la limite à la décence. On voit toutes sortes de choses. Il y a des gens maintenant qui demandent des bijoux avec les cendres de leurs chiens, etc. On se pose toujours la question, est-ce qu'on accompagne les gens? Est-ce qu'on profite de ce moment? Et il faut y aller beaucoup de tact et beaucoup de mesures. Et par contre, quand je vois le nombre de condoléances sur les livres de condoléances qu'on a dans nos salons et à quel point ils témoignent, et même des fois mon personnel, les lettres de sympathie qu'ils reçoivent, il y a un vrai besoin sociétal, on ne peut pas le nier. Et la satisfaction qu'on a, et c'est que vraiment, on a une réponse satisfaisante pour l'ensemble des gens. Et on apporte, donc d'un moment difficile, et ben on contribue à améliorer le bonheur des gens. Donc c'est comme ça qu'on gère cette relation au business qui est un vrai problème éthique. Moi, qui ai été formé avec une vraie préoccupation éthique, c'est un souci.
Dora, vous aviez une question.
Oui, vous parliez d'éthique, justement. Est-ce que dans vos 3 approches, vous sentez que les gens, ils ont un vrai rapport? On parlait d'écologie, là, tout à l'heure, de carton, de tout ça, d'avoir des cercueils en carton. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez comme quelque chose de fort?
Est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé pour les uns et les autres?
Nous, oui.
Anne-Sophie Tricard.
On a l'envoi des fleurs, par exemple, pour la cérémonie. C'est une tradition en France. Et on a énormément de demandes, par exemple, pour la plantation d'arbres. L'arbre, ça a une symbolique aussi bien pour notre planète Terre, d'où on vient, mais également de renaissance, parce que ça prend racine, ça vit dans le temps, ça vit au travers des saisons, des années. Et si je peux me permettre, on aimerait trouver... voilà. Un partenaire qui nous permettrait de planter des arbres en France ou dans le monde pour rendre hommage et apporter cette symbolique à nos internautes et aux proches des défunts.
Et c'est un beau message que vous nous délivrez là, et on va essayer de vous aider à trouver ce partenaire. Merci à tous les 3 d'être venus aujourd'hui nous parler de cette révolution qui concerne, et oui, aussi le monde du funéraire. Merci bien.
Merci.
Il est 13h47. Europe 1. Elle a sorti les griffes depuis 2012. C'est même quasiment son slogan. Papier Tigre est l'entreprise qui va bien et qui révolutionne l'univers du papier. A tout de suite.
Europe 1, la France bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien. Et cette entreprise, eh bien, c'est Papier Tigre. Bonjour Maxime Brennon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez cofondé Papier Tigre avec Julien Crespel. C'était il y a 7 ans déjà.
Absolument, le temps passe super vite.
Ouais. Vous n'étiez au départ pas du tout dans cet univers. C'est la rencontre avec Julien, je crois, qui vous a donné à tous les deux envie de vous lancer. Avec quelle idée en tête?
En fait, on était un petit peu dans cet univers puisqu'on était dans un studio de création. Donc on maniait l'image et puis parfois un petit peu le papier puisqu'on imprimait pour des clients des brochures, des choses en papier. Donc on avait savoir-faire créatif et puis aussi savoir-faire de fabrication. Et on s'est dit, tous nos clients dans le cadre de notre studio, ils sont bien sympas, mais on a envie de faire notre truc à nous. Et on s'est dit qu'il manquait quelque chose sur le secteur de la papeterie.
Comment est-ce que vous identifiez que le papier a encore de beaux jours devant lui? On est quand même, pardon, à l'ère du numérique.
Absolument. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le marché de la papeterie, il a énormément changé en 10 ans. Et en fait, on a pris la vague au bon moment. La papeterie, c'était un produit de consommation subi et qui s'est transformé grâce au digital à un produit cadeau avec une valeur ajoutée qui est plus importante. Et notre marque, elle est clairement positionnée là-dessus.
Vous êtes assez gonflé parce qu'au départ, vous, vous produisez des prototypes et vous allez les vendre chez Colette, au bon marché. Enfin, vous testez un peu le marché et ça fonctionne.
Absolument. En fait, on a rémunéré notre première production avec des échantillons qui nous ont été achetés avant la production. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé.
Alors l'idée, c'est de sortir évidemment des standards. Vous ne faites pas du papier comme monsieur tout le monde. Vous avez aussi envie de revenir à du papier de qualité. C'est quoi un papier de qualité pour vous aujourd'hui?
Alors pour nous, le papier de qualité, il est recyclé. Il est respectueux de l'environnement et il a des propriétés qui permettent à tout le monde d'écrire avec un crayon, avec un stylo, avec un feutre ou avec une plume. Je vous ai apporté un exemple de carnet qu'on fait sur mesure.
Qui est avec nous sur Europe1.fr.
Et celui-ci, par exemple, c'est le vôtre. Il a été fabriqué par Raphaël ce matin.
Oui.
Et en fait, c'est vraiment une innovation qu'on a lancée il y a très peu de temps, où tous nos clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels, ils peuvent concevoir leur carnet à partir d'un jeu d'options, à partir d'un exemplaire.
Donc là, si j'ai envie d'écrire sur des lignes comme à l'école, je peux. Si j'ai envie d'écrire sur des pages blanches, je peux.
Absolument.
Si j'ai envie d'écrire sur du bleu, je peux aussi.
Ouais.
Et ce papier recyclé, vous le prenez où?
En fait, on travaille avec Claire Fontaine, qui est quand même le gros acteur français. Claire Fontaine, il travaille super bien, depuis longtemps. Les forêts sont gérées, le papier, en fait, il est fabriqué à partir des déchets qui sont collectés dans le bassin de l'Île-de-France.
20 000 tonnes de papier recyclé, c'est ça, que vous récupérez
qu'on a consommé, qu'on a utilisé pour fabriquer nos carnets. Et en fait, le papier, il est issu des déchets directement collectés en Île-de-France. Il va dans l'usine dans l'est de la France et il revient chez nous. Donc, on a un circuit extra court.
Que dit notre coach de cette aventure Papier Tigre?
Alors, au niveau des chiffres d'impact avec toute votre la mise en place de quelque part une papeterie responsable, faire du papier qui pollue moins, quels sont en chiffres les impacts environnementaux du papier tout neuf et qui a un mauvais impact environnemental et du papier que vous produisez, c'est quoi la différence? Et après, j'ai une autre question parce que j'ai vu que vous aviez une adresse, adresses à Paris, à Angers, à Avignon et à Tokyo. Donc là, vous allez nous expliquer juste après le Tokyo. Mais
Ça marche. Alors, pour répondre à votre première question, en fait, l'impact, il est difficilement mesurable. Parce que dans le papier, il y a une grosse production qui est faite pour le packaging et les produits d'hygiène. Et d'ailleurs, ces deux secteurs, ils ont tendance à utiliser de plus en plus de matériaux recyclés. Donc, c'est très positif. Des chiffres que je peux vous donner, c'est par exemple sur l'impact sur les forêts. Il y a une idée reçue en France qui dit que la production de papier tue les forêts. Alors, c'est l'inverse. En France, les forêts grossissent. Et 30% du territoire français est recouvert de forêts. Donc, c'est en fait le secteur de la production de papier, il est hyper bien géré. C'est d'un point de vue recyclage et environnement, c'est ultra calibré, ultra efficace et c'est assez facile pour nous, en tout cas, de respecter l'environnement.
Sur Tokyo, manifestement, ça intrigue Frédéric Mazella.
En fait, on a deux boutiques à nous, une à Paris dans le Marais, rue des Filles du Calvaire, et une autre à Tokyo. C'est loin, Tokyo. En fait, c'est assez opportuniste. On a rencontré...
Le papier, c'est important pour les Japonais.
Alors oui, je vous le confirme. La première fois que j'y suis allé, j'étais un peu paniqué. Parce que c'est un vrai marché du papier. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on va leur apporter? C'est dingue. Et en fait, ce qu'ils apprécient chez nous... Alors d'une part, c'est qu'on est français. Et c'est vrai que la France au Japon, ça aide. Et ensuite, c'est notre créativité, qui est quand même le pilier de notre marque. On arrive un peu comme des punks au Japon, puisqu'on utilise plein de couleurs, plein de formes, alors qu'eux utilisent des choses très traditionnelles, très sobres. Et c'est ça qui nous permet de nous démarquer à Tokyo, au Japon.
Voilà pour les grandes lignes de l'histoire de Papier Tigre. Papier Tigre, vous pouvez choisir votre format, votre modèle. On vous fait tout sur mesure. Deux fondateurs, 1 million d'euros, 10 employés déjà et probablement encore de beaux jours devant elle. Merci d'être venu nous en parler, Maxime Brennon. Frédéric, merci d'avoir été notre coach aujourd'hui, Frédéric Mazella. Dora, on se dit peut-être à demain.
À bientôt.
Et à demain pour vous.
Nous,
en tout cas, Céline, nous, on se retrouve dès midi.
À demain.